Deux ans plus tard, Erendis conçut, et au printemps de l'année suivante, elle donna une fille à Aldarion. Et merveilleusement belle était l'enfant dès sa naissance, et elle ne cessa de grandir en beauté. « La femme la plus belle, disent les anciens contes, qui jamais naquit dans la lignée d'Elros, hormis Arzimrafel la dernière. » Et lorsque vint le temps de lui donner son premier nom, ils l'appelèrent Ankalimé. En son cœur, Erendis se réjouit, car elle se dit « Maintenant Aldarion va désirer un fils assurément, car il voudra un héritier, et il demeurera longtemps encore auprès de moi. » Car en secret, elle redoutait encore la mère et son pouvoir sur son époux. Et bien qu'elle s'efforçât de dissimuler ses craintes, parlant avec lui de ses expéditions passées et de ses espoirs et projets, elle surveillait jalousement ses allées et venues sur sa maison bateau et sa fréquentation des aventureux. Aldarion lui demanda un jour de venir à bord de l'Eambar, mais découvrant à l'instant des réticences dans son regard, il ne la pressa plus jamais. Et les craintes d'Erendis n'étaient pas vaines. Lorsqu'Aldarion eut passé 5 ans à terre, il se tourna de nouveau vers la gestion des forêts et fut, des jours durant, absent de chez lui. Car il y avait maintenant suffisance de bon bois à Nouménor, et cela grâce principalement à sa politique prévoyante. Mais la population se faisant toujours plus nombreuse, s'accroissaient constamment les besoins en bois pour les charpentes et à quantité d'autres fins. Car en ces jours d'autrefois, bien qu'ils fussent nombreux à maîtriser le travail de la pierre et du métal, car les Edain de jadis avaient beaucoup appris des Noldor, les Nouménoréens aimaient les objets fabriqués en bois pour l'usage quotidien ou simplement pour la beauté du travail. À cette époque, le souci d'Aldarion fut de nouveau d'assurer l'avenir, et toujours il prenait soin de replanter là où il avait fait faire une coupe. Et il mettait en forêt partout où cela se pouvait les terres en jachère qui convenaient à des essences très diverses. C'est à cette époque qu'il devint le plus couramment connu sous le nom d'Aldarion, et c'est sous ce nom que devait endurer sa mémoire parmi ceux qui tinrent le sceptre de Nouménor. Et néanmoins, Erendis n'était pas seul à penser qu'il n'aimait guère les arbres pour eux-mêmes, mais plutôt comme bois de charpente, propre à servir ses desseins. Et les choses n'étaient pas bien différentes avec la mer. Car comme Nouneth l'avait dit à Erendis longtemps auparavant, « Il se peut qu'il aime les navires, ma fille, car ils sont le fruit de l'intelligence et du savoir-faire des hommes. Et pourtant je ne crois pas que ce soit les vents et l'infini des flots qui lui dardent ainsi le cœur, ni même la vision de terres inconnues, mais bien une fièvre de l'esprit ou quelque chimère qui le hante. » Et sans doute touchait-elle de près la vérité. Car Aldarion était un homme qui voyait loin, et il présageait un avenir où le peuple aurait besoin d'espace et de ressources accrues. Et qu'il s'en rendît compte clairement ou pas, il rêvait de la gloire de Nouménor et de la puissance de ses rois, et il était en quête de bases d'où étendre plus loin leur territoire. Et c'est ainsi qu'il abandonna sous peu l'aménagement des forêts pour se remettre à la construction des navires, et il vint à concevoir un puissant vaisseau aux allures de forteresse, pourvu de hauts mâts et de larges voiles, semblables à des nuages, et qui porterait des hommes et des provisions pour une ville entière. Alors, sur les chantiers de Roména, s'affairèrent les scies et les marteaux, et parmi les nombreux navires de moindre tonnage, commença à prendre forme une gigantesque coque carénée, et les hommes l'admiraient et s'émerveillaient. Et on l'appelait le Turufanto, la baleine de bois, mais ce n'était pas son nom. Erendis eut vent de ces choses, bien qu'Aldarion ne lui en eût pas parlé, et l'inquiétude la saisit. C'est pourquoi elle lui dit un jour, « Qu'est-ce donc qui vous occupe tant avec les navires, seigneur des Havres? N'en avons-nous pas en nombre? Combien d'arbres de belle venue ont cette année vu leur espérance de vie tranchée prématurément ?» Elle dit ces mots légèrement et souriait en parlant. Un homme doit trouver à s'occuper lorsqu'il est à terre, dit-il, et cela même s'il a une belle épouse. Les arbres croissent et les arbres tombent, j'ai plus reboisé que ce que j'ai fait abattre. Il parlait aussi d'un ton léger, mais il ne la regardait pas dans les yeux, et il ne fut plus question de ces choses entre eux. Mais comme Ankalimé approchait de ses 4 ans, Aldarion déclara enfin ouvertement à Erendis son désir de reprendre la mer. Elle s'assit sans dire mot, car il ne lui apprenait rien qu'il ne sût déjà, et toute parole était vaine. Il patienta jusqu'au jour de l'anniversaire d'Anne Calimée et lui fit grande fête ce jour-là. Elle riait et se réjouissait, bien que d'autres en la maison n'étaient pas de semblable humeur. Et comme elle allait se coucher, elle dit à son père
« Où m'emmèneras-tu cet été, Tatania ? J'aimerais voir la blanche maison au pays des moutons, dont Mamil m'a parlé. »
Aldarion ne répondit rien, et le jour suivant il quitta la maison et resta absent plusieurs jours. Lorsque tout fut prêt, il revint et fit ses adieux à Erendis. Et malgré elle, les larmes lui montèrent aux yeux. Et ses larmes le chagrinèrent et elles l'irritèrent également, car sa décision était prise et il avait endurci son cœur.
« Allons, Erendis, » dit-il, « voici 8 ans que je n'ai pas bougé. Tu ne peux retenir à jamais en de doux liens le fils du roi qui est du sang de Tuor et d'Aerendil. Et je ne vais pas chercher mon trépas, je reviendrai bientôt. »
« Bientôt, » dit-elle, « mais les années sont implacables et tu ne les ramèneras pas avec toi. Et les miennes sont plus brèves que les tiennes. Ma jeunesse se dérobe à moi. Et où sont mes enfants et où est ton héritier ? Trop souvent j'ai trouvé ma couche froide ces temps derniers, trop souvent et depuis bien trop longtemps. »
« Ces temps derniers, il m'a paru que tu le préférais souvent ainsi, » dit Aldarion. « Mais ne nous querellons pas, quoique nous n'ayons pas même sentiment. Regardes en ton miroir, Erendis. Tu es belle, et nulle ombre de l'âge ne paraît encore. Tu as tout loisir d'accorder du temps à mon sincère besoin. 2 ans, c'est tout ce que je demande. »
Mais Erendis répliqua,
« Dis plutôt, je prendrai ces 2 années que tu le veuilles ou non. Prends donc ces 2 années, mais pas une de plus. Un fils de roi du sang d'Arendil devrait aussi être homme de parole. »
Le lendemain matin, Aldarion partit précipitamment. Il souleva Anne Calimée dans ses bras et l'embrassa, et elle se cramponnait à lui, mais il la posa à terre rapidement et s'en alla à cheval. Peu après, le puissant navire appareilla de Roména. Il lui avait donné pour nom Irilonde, le découvreur de Havre. Mais il quitta Númenor sans la bénédiction de Tar Meneldur, et Erendis n'était pas venu au port pour orner sa proue du vert rameau du retour, et elle ne manda personne. Le visage d'Aldarion était sombre et troublé, tandis qu'il se tenait à la proue de l'Irilonde, où la femme de son capitaine avait posé une grande branche d'Oyolayre. Mais il ne jeta pas de regard en arrière avant que le Meneltarma se soit évanoui dans le crépuscule. Tout le jour, Erendis resta seul en ses appartements, à couver son chagrin. Mais plus profondément en son cœur, une douleur nouvelle la poignait, celle d'une froide colère, et son amour pour Aldarion était blessé à vif. Elle haïssait la mer. Et même les grands arbres qu'elle avait tant aimés, elle ne les souhaitait plus voir à présent, car ils lui rappelaient les mâts des grands voiliers. C'est pourquoi elle quitta bientôt Armenelos et s'en retourna en Émérié, au cœur de l'île, où, portée sur les ailes du vent, elle percevait de toutes parts le bêlement des moutons.
Plus douce est leur voix à mes oreilles que le piaillement des mouettes,
dit-elle, debout sur le seuil de sa blanche maison, cadeau du roi. Et la maison se dressait sur un versant face à l'ouest, environné de vastes pelouses qui se mélangeaient au pâturage, sans mur ou haie de séparation. Et c'est là qu'elle emmena Anne Calimée, et elles se tinrent seules compagnie l'une à l'autre. Car Erendis ne voulait que des domestiques autour d'elle, et toutes étaient des femmes. Et elle cherchait sans cesse à modeler sa fille à son image et à éveiller en elle sa propre rancœur à l'égard des hommes. Au demeurant, rarement Anne Calimée voyait hommes qui vivent, car Erendis ne s'était pas constitué une maison et ses quelques valets de ferme et bergers vivaient dans un domaine aménagé un peu plus loin. Et il ne venait pas d'autres hommes hors quelques messagers du roi. Et il se hâtait de tourner bride, car pour les hommes, il régnait dans cette maison comme un froid qui les incitait à fuir. Et sur place, il se sentait contraint de parler à voix basse. Un matin, peu après qu'Erendis se fut installé en Émérié, un chant d'oiseaux l'éveilla. Et sur le rebord de sa fenêtre étaient juchés les oiseaux des elfes qui avaient longtemps vécu dans son jardin à Armenelos, mais qu'elle avait oubliée en partant.
« Allez-vous-en, » dit-elle, « gentil nigaud, ce n'est nullement le lieu pour une joie comme la vôtre. »
Et leur chant se tut, et ils s'envolèrent à la cime des arbres. Par trois fois, ils tournoyèrent au-dessus des toits, puis ils prirent leur essor vers l'ouest. Ce soir-là, ils se posèrent sur l'appui de la fenêtre, en la maison de son père où ils avaient dormi, Aldarion et elle, au retour du banquet d'Andounié. Et c'est là que Nouneth et Bérégar les trouvèrent le lendemain matin. Mais lorsque Nouneth leur tendit les mains, ils s'élevèrent d'un coup d'aile et filèrent au loin, et elle les regarda jusqu'à ce qu'ils ne fussent plus que deux mouchetures sur le soleil, se hâtant vers la mer, vers le pays d'où ils étaient venus.
« Il est reparti et il l'a laissé, » dit Nouneth.
« Alors pourquoi n'a-t-elle pas donné de ses nouvelles ?» dit Bérégar. « Ou pourquoi n'est-elle pas revenue à la maison ?»«
Des nouvelles, elle en a suffisamment envoyées, » dit Nouneth, « car elle a congédié les oiseaux des elfes, et c'est mal de sa part. Cela ne présage rien de bon. Pourquoi, pourquoi, ma fille ? Ne savais-tu point ce qu'il allait te falloir affronter ? Mais laisse-la à elle-même, Bérégar, où qu'elle soit. Cette maison n'est plus la sienne, et elle ne trouvera pas à se guérir ici. Il reviendra, et alors fasse que les Valar lui envoient la sagesse, ou du moins un brin de ruse. »
Lorsque survint la seconde année du voyage d'Aldarion, conformément au désir du roi, Erendis donna ordre qu'on décorât et qu'on préparât la maison d'Arménélos. Mais elle-même ne fit aucun préparatif de retour. Et au roi, elle fit réponse, disant « Je viendrai si tu me l'ordonnes, Atar Aranya. Mais est-ce bien mon devoir à présent de me précipiter ? Ne sera-t-il pas temps de venir lorsque l'on apercevra sa voile à l'est ?»
Et en son fort intérieur, elle se dit
« Le roi voudrait-il que j'aille l'attendre sur les quais, telle l'amoureuse d'un marin ? Si seulement je l'étais encore, mais ce n'est plus le cas. J'ai joué ce rôle jusqu'à l'épuisement. »
Mais l'année passa, et nulle voile ne parut. Puis une autre année vint et déclina sur l'automne. Alors Erendis se fit dure et silencieuse. Elle ordonna que soit fermée la maison d'Arménélos, et elle ne s'éloigna plus jamais de sa propre maison, sinon à quelques heures de distance. Tout ce qu'il y avait en elle d'amour, elle le prodigua à sa fille, et elle l'attacha étroitement à elle, ne voulant pas qu'Ankalimé la quittât, fût-ce pour visiter Nouneth et sa famille sur les terres de l'Ouest. Et elle se chargea entièrement de son éducation. Et ainsi, Ankalimé apprit-elle à lire et à écrire fort bien, et à parler avec Erendis dans la langue des elfes, telle qu'en usaient, à Nouménor, les gens de haut rang. Car sur les terres de l'Ouest, c'était le parler usité quotidiennement dans des maisons comme celle de Bérégar, et Erendis recourait rarement au parler nouménoréen qui avait la préférence d'Aldarion. Et Ankalimé apprit aussi beaucoup de choses sur Nouménor et sur les jours d'antan, dans les livres et parchemins qui se trouvaient dans la maison et qu'elle pouvait comprendre. Et les savoirs et traditions d'un autre genre, concernant le peuple ou le pays, elle en ramassait des bribes auprès des femmes de la maisonnée, à l'insu d'Erendis. Mais les femmes prenaient garde aux propos qu'elles tenaient à l'enfant par crainte de leur maîtresse. Et pour Ankalimé, le rire était chose rare dans la blanche maison des Méliers. Car la demeure était tout silence, et nulle musique ne s'y faisait jamais entendre, comme si quelqu'un y avait péri peu auparavant. Car à Nouménor, en ce temps-là, jouer des instruments de musique était le rôle des hommes. Et la seule musique dont put jouir Ankalimé dans son enfance fut le chant des femmes au travail dehors, loin des oreilles de la blanche dame de l'Émerillé. Mais Ankalimé avait maintenant 7 ans, et dès qu'elle recevait permission, elle filait hors de la maison et sur les vastes coteaux où elle pouvait courir en toute liberté. Et parfois, elle s'en allait avec une bergère garder les moutons et prendre son repas sous la nue. Un jour d'été de cette même année, un jeune garçon, plus âgé qu'elle, vint en leur demeure, chargé d'une commission par les gens d'une ferme éloignée. Et Ankalimé le trouva par hasard qui mâchonnait du pain et buvait du lait derrière la maison, dans la cour de la ferme attenante. Il lui lança un regard irrévérencieux et continua de boire. Puis, il posa son bol.
« Dévisage-moi donc si ça te dit, grands yeux » s'exclama-t-il.
Tu es jolie, mais trop maigre. Tu veux manger ?»
Et il sortit un quignon de pain de son sac.
« Allez, file, Ibal !»
s'écria une vieille femme qui sortait de la laiterie.
« Et ne ménage pas tes longues jambes, ou tu auras oublié le message que je t'ai donné pour ta mère avant même d'arriver chez toi. « Pas besoin de chien de garde quand tu es là, mère Zamine !»
s'exclama le gamin. Et avec un grognement et un cri, il sauta la barrière et dévala la colline à toutes jambes. Zamine était une vieille paysanne qui avait son franc-parler et ne se laissait guère intimider, même par la blanche dame.
« C'était quoi cette chose bruyante ?» demanda Anne Calimé.
« Un garçon, » dit Zamine, « si cela te dit quelque chose. Mais comment saurais-tu ce que c'est ? Ça mange et ça casse, le plus clair du temps. Celui-là n'a jamais fini de manger, mais non sans profit pour lui. Un beau gars. Voilà ce que trouvera son père à son retour. Mais s'il tarde trop, il aura peine à le reconnaître. Et il y en a d'autres dont je pourrais en dire autant. »
« Le garçon a donc aussi un père ?»
demanda Anne Calimé.
« Assurément, » dit Zamine. « Oulbar, un des bergers du puissant seigneur là-bas, tout au sud. Le seigneur berger, nous l'appelons, un parent du roi. »
Mais alors pourquoi le père du garçon n'est-il pas à la maison ?
Mais, Erinke, dit Zamine, parce qu'il a entendu parler de ces aventureux, et il s'est mis à les fréquenter, et il est parti avec ton père, le seigneur Aldarion. Mais les Valar seuls savent où et pourquoi.
Ce soir-là, Anne Calimé dit soudain à sa mère :
Mon père ne se nomme-t-il pas seigneur Aldarion lui aussi ?
Ainsi l'appelait-on, dit Erendis. Mais pourquoi me demandes-tu cela ?
Elle parlait sur un ton tranquille et détaché, mais elle s'étonna et se troubla, car il n'avait jamais été question d'Aldarion entre elles auparavant. Anne Calimé ne répondit pas à la question.
« Et quand reviendra-t-il »
dit-elle.
« Ne me le demande pas, » dit Erendis. « Je n'en sais rien. Jamais, peut-être. Mais ne te fais nul souci, car tu as une mère, et tant que tu l'aimes, elle ne s'enfuira pas. »
Anne Calimé ne parla plus de son père. Les jours se succédèrent, amenant une nouvelle année, et puis encore une autre. En ce printemps-là, Anne Calimé avait 9 ans. Des agneaux naquirent et grandirent. La saison de la tonte vint et passa. Un été torride brûla l'herbe. L'automne apporta de grandes pluies. Et voilà que des confins de l'Est survint l'Irilondé, porté par un vent nuageux sur des mers cendreuses qui ramenaient Aldarion à Romena. Et on envoya un message en émérié, mais Erendis n'en parla point. Il n'y eut personne pour accueillir Aldarion sur les quais. Il chevaucha sous la pluie jusqu'à Arménélos et là trouva sa maison fermée. Et il en fut consterné, mais il ne voulut questionner personne. Il se rendrait d'abord chez le roi, car, songeait-il, il avait beaucoup à lui dire. Il trouva sa bienvenue aussi fraîche qu'il s'y attendait, et Ménéldour lui parla comme un roi à un capitaine à qui on demande compte de sa conduite.
« Tu es resté absent longtemps, » dit-il froidement. « Il y a plus de 3 ans maintenant, depuis la date fixée pour ton retour. »«
Hélas, » dit Aldarion, « j'en suis venu moi-même à me lasser de la mer, et depuis longtemps mon cœur se languit de revenir dans l'Ouest. Mais j'ai été retenu contre mon vouloir. Il y a beaucoup à faire, et tout se dégrade en mon absence. »«
Je n'en doute pas, » dit Ménéldour. « Et à ce que je crains, tu trouveras qu'il en va de même dans ton propre pays. »
« À cela j'espère porter bon ordre, » dit Aldarion. « Mais le monde connaît à nouveau de grands bouleversements. Près de 1000 ans se sont écoulés hors de ce pays depuis que les seigneurs de l'Ouest ont envoyé leurs forces contre Angband. Et parmi les hommes de la Terre du Milieu, ces temps sont oubliés ou enfouis en d'obscures légendes. Ils sont de nouveau inquiets et la peur les hante. Je désire vivement en parler avec toi, te faire le récit de mes actes et t'exposer ma pensée sur ce qu'il y aurait lieu de faire.
« Et tu auras tout loisir, » dit Ménéldour. « Et en vérité, je ne m'attendais pas à moins. Mais il y a d'autres choses que je juge plus urgentes. Qu'un roi gouverne bien sa maison avant de se mêler de corriger autrui, dit-on. Et c'est vrai de tout homme. Je vais à présent te donner un conseil, fils de Ménéldour. Tu as aussi une vie à toi. Cette moitié de toi-même, tu l'as toujours négligée.
À toi, je dis maintenant, rentre à la maison. »
Aldarion brusquement se raidit et son visage se durcit.
« Si tu le sais, peux-tu donc me dire où est ma maison ?»«
Là où est ta femme, » dit Meneldour. « Contraint ou non, tu n'as pas tenu la promesse que tu lui avais faite. Elle demeure à présent en Emerié, dans sa propre maison, loin de la mer. Et c'est là qu'il te faut aller un continent. »
« Si un message m'avait été laissé pour me dire où aller, je m'y serais rendu directement depuis les quais, » dit Aldarion. « Au moins n'aurais-je pas acquêté des informations auprès d'étrangers. »
Il se détourna pour partir, mais s'arrêta court, disant « Le capitaine Aldarion a oublié un petit quelque chose qui relève de son autre moitié, celle-là même qu'il juge, dans son entêtement, tout aussi importante. Il a une lettre qu'il s'est engagé à remettre au roi en sa ville d'Arménélos. »
Et donnant la missive à Meneldour, il s'inclina et quitta la pièce. En une heure, il avait pris un cheval et était parti malgré la nuit tombante. Il n'avait pour compagnon que deux hommes, membres de son équipage. Enderk, un homme originaire des terres de l'Ouest, et Ulbar, qui était natif de l'Emerié. Chevauchant à bride abattue, ils arrivèrent en Emerié le lendemain soir, et les hommes et les chevaux étaient fourbus. Froide et blanche leur apparut la maison sur la colline dans les dernières lueurs d'un couchant nébuleux. Dès qu'Aldarion l'aperçut au loin, il sonna du cor pour s'annoncer. Comme il sautait au bas de son cheval dans l'avant-cour, il vit Erendis. Vêtue de blanc, elle se tenait sur les marches qui menaient au porche à colonnes et à la porte. Elle portait haut le front, mais s'approchant, il vit qu'elle était pâle et que ses yeux brillaient d'un éclat singulier.
« Tu viens bien tard, Seigneur, » dit-elle. « Depuis longtemps j'ai cessé de t'attendre, et je crains que tu ne trouves point l'accueil que je t'avais préparé pour le temps où l'on prévoyait ton retour. »
« Les marins se contentent de peu, » dit-il.
« Tant mieux, »
dit-elle. Et elle rentra dans la maison et le laissa. Alors deux femmes s'avancèrent tandis qu'une vieille descendait les marches. Et comme Aldarion entrait, la vieille dit aux hommes à voix haute et forte, afin que tous puissent l'entendre.
« On ne peut pas vous loger ici. Allez donc au domaine, au pied du coteau. »«
Non, Zamine, » dit Ulbar. « Je ne m'attarde pas. Je rentre chez moi, si le seigneur Aldarion me donne mon congé. Tout va bien là-bas ?»«
Ça peut aller, »
dit-elle.
« Ton fils a mangé tant et si bien que tu ne trouveras pas grand-chose qui ressemble à tes souvenirs. Mais va et trouve tes propres réponses. » Tu auras plus chaud là-bas que ton capitaine ici. »
Erendis ne vint pas à table pour ce souper tardif, et les femmes servirent Aldarion dans une chambre à part. Mais avant qu'il eût terminé son repas, elle entra et dit devant les femmes
« Vous devez être exténués, seigneur, après une course à ce point précipité. Nous vous avons apprêté une chambre d'hôte qui reste à votre disposition. Mesdames sont à vos ordres. Si vous avez froid, « demandez du feu. »
Aldarion ne répondit pas. Il se retira tôt dans la chambre à coucher et, pris en effet d'une lassitude extrême, se jeta sur le lit et tomba dans un profond sommeil, oubliant toutes les ombres de la terre du milieu et de Nouménor. Mais au chant du coq, il s'éveilla, plein d'émoi et de colère. Il se leva aussitôt et songea à quitter la maison sans bruit. Il trouverait bien Enderk, son compagnon, et les chevaux, et il se rendrait chez son parent, Alatan, le seigneur berger de Yarastorni. Plus tard, il enjoindrait à Erendis de lui amener sa fille à Arménélos, et ainsi il éviterait de traiter avec elle sur son propre terrain. Mais comme il se dirigeait vers la porte, Erendis vint à sa rencontre. Elle ne s'était pas couchée de la nuit, et elle se tenait là, devant lui, sur le seuil.
« Vous partez plus promptement que vous n'êtes venu, seigneur, » dit-elle. « J'espère que pour un homme de la mer, cette maison de femme ne vous a pas semblé repoussante au point de vous faire fuir avant d'avoir achevé vos affaires. Et d'ailleurs, quelle est donc la raison qui vous a amené jusqu'ici? Puis-je la prendre avant votre départ ?»«
On m'a dit, en Arménélos, que ma femme était ici et qu'elle avait amené ma fille avec elle, » répondit-il. « En ce qui concerne ma femme, je me suis trompé à ce qu'il me paraît. » « Mais n'ai-je point une fille ?»«
Vous en aviez une, il y a quelques années de cela, »
dit-elle.
mais ma fille n'est pas encore levée.
« Eh bien qu'elle se lève pendant que je vais chercher mon cheval, » dit Aldarion.